Parlant du vrai bonheur, donc nous allons lire le texte qui en parle tellement. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Le serment sur la colline. Au nom de Jésus. Quand Jésus fit ses foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à les enseigner en ces termes. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Je me rappelle toujours un été, on m'avait invité pour célébrer un mariage. Un couple m'avait demandé de donner cette bénédiction maritale vers Grenoble. Et lors de la préparation de cet événement, comme d'habitude, on discute avec la famille, le couple, sur le thème et comment ça va se dérouler, la cérémonie. La famille m'avait signalé, il y a quelque chose qu'on aimerait vous dire, monsieur le pasteur. Nous sommes une famille athée. Mais très ouvert d'esprit. On est prêt à accepter une cérémonie d'église. Alors, au moment où je leur ai dit qu'il va falloir tout de même choisir un texte biblique parce que moi, je ne ferai pas mon homélie à partir d'une citation d'un philosophe ou que sais-je, parce que vous êtes une famille athée et je vous respecte dans votre choix, mais moi, je ne peux pas faire une prédication à partir d'une phrase philosophique. Alors, cherchez un texte qui vous conviendrait. Donc, ils ont réfléchi pendant une semaine et m'ont donné un texte, les Béatitudes. Ce texte ici. Car selon le père de famille, le père du marié, il dit, c'est un texte neutre qui ne parle pas de Dieu ni de Jésus, mais qui contiendrait une grande sagesse, une bonne morale, que tout le monde accepterait, qu'il soit agnostique, athée, religieux ou pas. Alors, en mon fort intérieur, je dis, vous êtes mal tombé, mais je n'ai rien dit. Je dis, ah, c'est votre choix? Ok, d'accord. Alors, vous aussi, je vais vous inviter ce matin à entrer en profondeur dans ce texte pour savoir s'ils avaient eu raison ou pas d'avoir choisi ce texte pour éviter Jésus, quoi. C'est pour esquiver le Christ. Si je vous pose une question sans chercher loin, quel mot qui revient est dominant dans ce texte? Heureux. Heureux. La quête du bonheur, justement pour ce couple, c'était leur objectif. Et c'est l'objectif de tout le monde, tant recherché par l'homme. Mais si on creuse derrière ce mot heureux en grec, heureux veut dire makarios. Et Makarios, littéralement, c'est là que je vous dis, ils se sont gourés. Littéralement veut dire favoriser les dieux. Donc, dès le début, ils sont coincés. Favoriser des dieux ou vivre comme les dieux. Intéressant comme définition. On n'avait pas imaginé cette définition. Cette définition est très importante dans la suite de notre compréhension de la longue liste qui est dans les béatitudes. Les gens se précipitent tout de suite à creuser sur heureux celui qui aime la justice, mais ils zappent le premier mot qui est le plus important, heureux, heureux, heureux. L'homme, il vit toujours dans un état de quête des choses matérielles. Pour satisfaire ses besoins, il pense quand il aura tout, il sera heureux. L'être humain est toujours dans une attitude d'accaparement des biens. Regardez à la TV, dès qu'on a dit que tous les magasins vont fermer, tout un kilomètre de gens derrière les magasins d'IKEA, les magasins, c'est voilà. C'est ça l'homme. Il dit au moins pour être heureux pendant le confinement. Il faut acheter. Intéressant comme concept. Tandis que les dieux, je dis bien les dieux, ils ont déjà tout, n'est-ce pas? Et donc, pour eux, vivre, c'est avoir une autre valeur qu'ils chérissent. Et dans les béatitudes, c'est la liste des valeurs divines. Ce ne sont pas des valeurs humaines, ces béatitudes. Ce sont les valeurs des dieux, les valeurs de Dieu qui est dans cette liste. Je ne sais pas pour vous, quand vous avez lu les béatitudes, en vous-même, n'avez-vous pas eu cette idée? C'est impossible que je les aurais. C'est surhumain, et c'est vrai, puisque ce sont des valeurs divines et non des valeurs humaines. Et cette valeur divine, si on résume toute la liste, elle se résume par un seul mot, la justice. Versets 6 et 10. Je vais relire. Il dit, heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, vous voyez, vivre comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Et verset 10, heureux ceux qui sont persécutés, car ils agissent comme Dieu. Voilà, comme Dieu. Et c'est quoi cette valeur de Dieu? C'est la justice. De cette justice que découlent tous les autres, la consolation, verset 5. C'est de cette justice que vient la miséricorde, verset 7. C'est de cette justice que vient la paix, verset 9. Voilà donc en quelque sorte les ingrédients du bonheur, consolation, miséricorde et paix. Si tu as la consolation de Dieu, si tu reçois la miséricorde de Dieu, si tu as la paix de Dieu, tu es un homme ou une femme heureux, heureuse. Le psaume 89, verset 4, précise bien, la justice et l'équité sont la base de ton trône éternel. La fidélité et la loyauté se tiennent devant toi. Avez-vous su que la base du trône de Dieu, c'est la justice? Et ça se voit dans le monde, quand l'injustice est là, c'est le chaos. Dieu n'est pas présent. Si être heureux est celui qui vit comme Dieu, alors ici, alors celui qui ne vit que pour la recherche de la justice pour les autres, celui-là sera heureux. Celui qui a dépassé cet état de chercher quelque chose que pour lui, il ne sera jamais heureux. Par contre, celui qui a compris que maintenant il vit pour les autres, celui-là, il sera heureux parce que les dieux vivent ainsi. Dieu, lui, il est toujours affligé par l'injustice qui s'abat sur les petits. Ça lui fait du mal. Si dans le texte il est dit « Heureux les miséricordieux », cela indique une personne qui est prise aux entrailles devant une situation de mal ou de misère autour de lui. La miséricorde, c'est lorsque Dieu est touché au plus profond de lui-même, face à la pauvreté de l'homme, face à ses inquiétudes. En d'autres termes, Dieu est heureux par excellence, ressentant le manque que subissent les autres. C'est paradoxal, contrairement à nous. Et donc, seuls qui ressentent ce manque chez les autres, qui peuvent aussi devenir heureux comme Dieu lui-même. Il ne le fait pas pour soulager sa conscience en faisant du bien autour de lui, mais parce qu'il partage les douleurs et les souffrances du monde. Telle est normalement la motivation qui doit nous pousser. Ce n'est pas pour soulager notre conscience. Ce n'est pas pour régler notre facture devant Dieu, parce que nous avons tellement fait du mal dans le passé et qu'il faut compenser. Ce n'est pas cela qui procure le bonheur. C'est parce que tu ressens en toi, dans tes tripes, que l'autre a besoin de toi. Là, tu seras heureux. Et je reviens à la problématique que j'avais évoquée au tout début. Le couple qui avait cru choisir un texte assez neutre, qui ne parlerait pas de Dieu ou de Jésus, mais finalement, comme je viens de le dire, ils se sont trouvés coincés en plein dedans. Car celui qui est derrière le mot « l'heureux » finalement ici, « l'heureux » mais pas « heureux », ça parle d'une personne, c'est Jésus. Il parle de lui, Jésus, à ce moment-là, « heureux », mais il le dit en troisième personne du singulier pour ne pas se mettre en avant. « Heureux, heureux, heureux ». Lui, c'est l'heureux de Dieu. Et je vous invite à regarder un par un la liste de ces béatitudes. Le pauvre, le doux, celui qui a faim et soif de justice, celui qui a un cœur pur, celui qui œuvre pour la paix, celui qui est persécuté. Ça, c'est clair, non ? C'est le Christ. C'est lui seul qui a toutes ces qualités. Et même grammaticalement, quand on regarde dans le texte grec, on n'indique pas clairement qui est ces pauvres et ces personnes qui ont un cœur pur. Mais en revanche, une fois à partir du verset 10, c'est là que Jésus précise bien par la suite, vous aussi, vous pourrez être heureux comme moi. Regardez à partir du verset 10, il dit, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux êtes-vous. C'est là qu'il commence à préciser. Mais avant, il ne dit pas « vous », mais « heureux celui, on ne sait pas qui ». Cela veut dire que la personne qui n'est pas montrée explicitement derrière ce mot « heureux » n'est autre que le Christ. Il est impossible pour un pauvre pécheur comme moi d'avoir toutes ces qualités, sinon ce serait un super-héros dans un film de fiction. Cependant, nous devenons aussi heureux, nous pouvons devenir heureux quand nous avons le Christ en nous. Parce que c'est lui qui vit en chacun de celui qui croit en lui, c'est lui qui peut partager ses valeurs en nous. Et il nous invite tous les jours à expérimenter d'être pauvre de cœur, comme lui il l'était. Quelqu'un qui n'a pas un sentiment d'autosuffisance. Et c'est ça qui est paradoxal. Dieu qui a tout, mais qui n'a pas ce sentiment d'autosuffisance. Dieu qui a tout, mais qui a besoin de parler, de partager avec quelqu'un. Nous, par exemple, si nous souffrons pendant le confinement, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous parle, mais Dieu n'a pas ce besoin. Or, lui, il y a quelque chose qui le pousse à aller vers l'autre. C'est ça le secret du bonheur de Dieu. Le Jésus qui est en lui, en nous, nous rend conscients de notre petitesse et nous fait accepter qu'on a besoin de l'autre. Nous avons déjà parlé ici une fois, lors d'une prédication, l'amour est dangereux. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est un aveu qu'il y a un manque en nous. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a un vide. Et on essaie de le remplir par quelqu'un, par quelque chose. Et donc, déclarer sa flamme, son amour à quelqu'un, c'est de lui dire « Je suis rien sans toi ». C'est un aveu de faiblesse, l'amour. Or, quand Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il y a de faible en Dieu? Il n'y a rien. Il a tout. Mais il nous donne un exemple pour dire, parce que aimez-vous comme moi je vous aime. Je fais une petite parenthèse, je me rappelle de la conférence de presse qu'a dit le Premier ministre, il dit, ceux qui sont en bonne santé plus forts, soyez les épaules pour les autres. Mais c'est vrai, aussi bibliquement parlant. Le confinement qui va nous venir en nous, c'est là qu'on verra qui sont les vrais disciples de Dieu. Ne pas juste rester, ah moi je me sens bien, je suis en bonne santé. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. L'être humain est de nature égoïste, tourné que sur lui-même. Alors s'intéresser réellement à l'autre, se sentir affligé lorsque l'autre souffre, c'est ça être un enfant de Dieu. Sentir dans sa peau et son être l'injustice qui frappe l'autre, voilà les attitudes des heureux. Dans les évangiles, lorsque Jésus voyait la foule autour de lui qui avait faim, que ce soit en nourriture spirituelle ou pour le corps, il est dit à chaque fois, il en fut ému. Il ne faisait pas semblant, mais il était ému. Et au sens littéral, ému, les tripes qui se remuent. Donc c'est quelque chose de très profond. C'est plus qu'une émotion. C'est vraiment une communion avec la personne qui souffre. Et je trouve que ce texte tombe bien dans ce moment difficile que nous traversons. Les versets 7 à 10 montrent que l'heureux ici, le Christ Jésus, il est l'artisan de la paix. Et dans cette expression, l'artisan de la paix, ce n'est pas juste un idéaliste qui réclame la paix et la justice comme font certaines associations qui sont dans les nuages. Mais un artisan est celui qui est dans le réel, qui s'engage dans le concret, allant jusqu'au dépouillement de lui-même pour combler le manque de l'autre. Voilà un artisan de paix. Il y a beaucoup de gens qui inspirent à la paix. Vous voyez, inspirer, réfléchir, rêver, idéaliser. Oui, je suis pour la paix, peace and love. Mais en réalité, ils sont absents dans le monde. Oh, je suis pour la paix. Mais ils n'aident pas. C'est incroyable. Jésus, lui, n'a pas crié sur le toit, je suis pour la paix. Il a donné à manger à ceux qui ont faim. Il a guéri les malades. Il a pardonné celui qui était dans le péché. Voilà quelqu'un qui est l'artisan de la paix. Sois un artisan de la paix et non juste un idéaliste de la paix. C'est ce qui manque dans ce monde aujourd'hui. Des gens concrets, mais pas que dans le discours. Et cet acte de l'heureux, Jésus fera un effet domino vers ses disciples. Tous ceux qui ont été touchés par cet homme heureux va devenir aussi à son tour des heureux, comme le Christ l'était, c'est-à-dire les artisans de paix. À notre tour aussi, nous ne devrions pas avoir peur d'aller jusqu'au dépouillement de soi, si nécessaire, comme le Christ qui s'est vidé, afin que nous qui sommes pauvres, disait Paul, soient relevés. Voir l'autre se relever de la poussière où il est, élever l'autre par la grâce de Dieu, est la plus grande récompense, chers frères et sœurs en Christ. Le bonheur ultime de voir l'autre qui se relève de sa poussière, ça fait de la joie, ça procure du bonheur inimaginable. Quand on reçoit un SMS, un mail d'un frère, une sœur qu'on a porté dans la prière et qui nous partage sa joie, qu'il a reçu ce qu'il a demandé, c'est comme si on a reçu des primes. C'est une joie. C'est pas une satisfaction d'un travail qui a été fait, mais c'est le fait de... Tu sens la joie de ton frère qui te partage cette nouvelle. Ne voudrais-tu pas vivre cela? Ou juste vivre dans ton coin? Et faire ce qui va mieux pour toi et ta famille seulement. En d'autres termes, je termine sur cette phrase de Dietrich Bonhoeffer. Il appelle cela le prix de la grâce. Le prix de la grâce, en question ici, ce n'est pas la condition pour acquérir la grâce, mais la grâce, la valeur de cette grâce nous pousse à aller de l'avant. Celui qui a compris le prix de son salut, celui qui a compris la valeur de la grâce qu'il a reçue, ne peut pas être tranquille dans son coin. Nous avons été comblés par cette grâce. Alors nous aussi, nous sommes poussés à combler les autres par cette grâce de Dieu. Amen.